comment poser une question.
Oui.
Tu dis l'essentiel, c'est, dans les pensées crues, c'est la plus importante à voir, c'est celle qui fait qu'on croit en un moi, qu'on est un moi, qu'on est une entité
séparée. L'idée d'un moi, oui.
L'idée d'un moi. En ce qui me concerne, je ne sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas. Comment on repère ça?
Il me semble qu'on a déjà eu une discussion un peu comme ça.
Une fois. Bah, je pense, oui, parce que bah, voilà, j'ai pas avancé. Là.
Quand je parle de l'idée d'un moi, je parle spécifiquement de l'idée d'être un individu séparé. Qui pense par lui-même, qui fait des choix par lui-même et qui pose des actes par lui-même. L'idée d'être responsable de ce qu'on fait, de ce que je fais. L'idée que ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas moi, enfin, s'il n'y a pas un moi aux commandes. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose. En même temps, c'est la façon que j'ai de le présenter. J'ai rencontré quelqu'un qui ne comprenait pas cette histoire de moi, de l'idée d'un moi et tout ça, puis qui s'est dit, c'est bien sûr que si, il y a un moi. Puis il est resté avec, mais alors c'est quoi ce moi? C'est quoi ce moi dont je connais l'existence, dont je suis sûr qu'il l'est, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'elle est remontée à je suis. Et pouf, ça s'est effondré. Elle s'est aperçue qu'en fait, le monde apparaissait en elle, et que donc le corps, Gaëlle, apparaissait en elle. Et qu'en fait, ça n'avait jamais été comme elle croyait que ça avait été. Et pourtant, elle n'avait pas l'idée d'un moi tel que je le définis là. Mais l'idée d'un moi qu'elle avait n'avait jamais été regardée. Donc on ne peut pas non plus pile poil s'accrocher à ce que je dis comme ça. Après, c'est un petit peu chacun à sa manière. Et en plus, moi je suis un homme, toi tu es une femme, mais je pense qu'il y a de grosses différences parce que dans ce que j'ai pu remarquer chez ceux qui ont réalisé cette absence de moi, ce que je vais appeler l'absence de moi, l'absence d'individus séparés, ce serait peut-être déjà plus juste, et bien plus de la moitié, je pense au moins les trois quarts des femmes à qui c'est arrivé, passent par ce côté-là où elles réalisent que le monde apparaît en elles. Que le corps apparaît en elle, que le monde apparaît en elle, et que donc elles ne sont pas ce corps, qu'elles ne sont pas ce qu'elles croyaient être. Tu vois ? La plupart passent par là. Oui. C'est drôle. Je ne sais pas si c'est comme ça en général, mais en tout cas, les gens que j'ai vus, c'est comme ça. Et les hommes, pas.
Ah ben j'en connais au moins un qui est mon mari qui est assis. Bon.
Oui ?
Oui, lui aussi.
Donc tu vois, ce n'est pas dans l'expérience que j'ai, il
y en a
pas.
Oui, c'est ça.
Donc, je sais pas, tu vois, c'est un mystère. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'il y a une différence entre avant et après, qu'elle est très notable. Elle est indubitable, tu vois, il y a une certitude, il y a une évidence qu'on n'est pas ce qu'on a toujours cru être. Est-ce qu'on est pris par les choses? Est-ce qu'on croit à tout ça? Ou est-ce qu'on n'est pas pris et que les rares fois on est pris, on sait bien que c'est pas vrai? Il y a une certitude que de toute façon c'est pas vrai, mais que c'est tout. Je vois pas ce qui fait que ça coince, mais ça coince. Thank you.
de savoir ce qui fait que ça coince, parce que là j'étais complètement dans la sensation d'un moi là, à la minute qui vient de... J'avais des sensations physiques, beaucoup de chaleur, donc je me disais, ben, la chaleur, il n'y a que moi qui la sens, les autres, ils n'ont pas l'air, c'est bien moi. Les pensées que j'ai, elles sont à moi. Donc... Alors voilà, et ouf, j'essayais de me décrocher d'idées d'un moi et j'ai pas trouvé.
Non, ce qui se passe, c'est que tu interprètes le fait que ce corps soit ressenti comme moi. Que les pensées qui apparaissent comme moi, comme le signe d'un moi.
Je cherchais ce qui faisait que je me sentais moi, et voilà, ma réponse était ça, ma sensation de chaleur qui revient des pensées. Qu'est-ce qui fait que je me sens moi ?
Et ben,
c'est ça. Voilà.
Oui, mais est-ce que la sensation de chaleur prouve l'existence d'un individu séparé? Qui pense par lui-même, agit par lui-même, fait des choix par lui-même.
Alors c'est peut-être ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu appelles individu séparé. Je veux bien croire que je ne pense pas par moi-même, que je suis conditionnée, que ça je veux bien. Mais ça là, ce que je sens, la chaleur, il n'y a que moi qui le sens, là, c'est chaud. Donc, individu séparé, je comprends. En fait, je ne comprends pas. Parce que...
Mais tes sensations physiques ne sont pas les miennes, les réciproques.
Voilà. C'est ça.
Oui, dans une certaine mesure.
C'est pas une interprétation que l'on fait, il faut se dire.
Il y a comme cristallisation, tu vois, condensation, concentration sur cet organisme, sur ce qui arrive ici, au lieu dit un tel. Quand tu es concentré sur une tâche, tu n'entends même plus si on parle. Pourtant, les oreilles entendent. Mais c'est comme si. La conscience est contractée à un endroit sur cet organisme. Et ça fait croire que là, mais ça c'est moi. Je suis la seule à ressentir ça. Je suis la seule à avoir ces pensées-là à cet instant précis. Sauf qu'on a tous les mêmes pensées que la sensation de chaud, on connaît tous. Mais si ça cesse d'être concentré, que ça devient centré, c'est-à-dire que si l'espace s'ouvre, l'espace, ça ne veut rien dire, mais enfin, on devait dire si l'espace de la conscience ne se restreint pas à cet organisme, alors on réalise tout à coup qu'on sent des choses qui n'appartiennent pas à moi, à cet organisme, que je peux ressentir ce qu'un autre sent, penser, enfin, savoir ce que l'autre pense. Penser à l'autre en même temps qu'il pense à moi. Elle est où là, l'individu séparé qui serait complètement séparé de l'autre? Si on est capable, si, c'est pas qu'on est capable, si ça ressent ce que ressent l'autre, si ça sait ce que pense l'autre, si ça, tu vois ce que je... Je suis pas en train de nier le fait qu'il y a des organismes différents. Je suis en train de dire que et il y a des organismes différents et ça ne prouve en rien l'existence d'un moi qui les pilote et ça ne prouve en rien une séparation au sein de la conscience. Je ne sais pas si c'est mieux exprimé comme ça. C'est difficile à mettre tout ça en mots, à essayer de...
Oui, mais ça contredit tellement notre expérience courante, par exemple, dans un contexte où on apprend des mouvements, on dit à l'autre, bah, tu mets le pied ici, tu mets le pied là, alors on s'adresse verbalement à la personne, pour qu'il fasse avec son corps telle chose, et ça fonctionne, quoi.
Oui, et en même temps, si tu es vraiment en présence de l'autre à qui tu apprends ça, tu vas sentir où est sa difficulté, tu vas le sentir dans ton corps.
Tout à fait.
Mais ça va se transmettre dans ton corps, mais en fait, c'est connu avant d'être dans le corps. Oui. Comment ça explique ça?
Oui, non, mais je vois de quoi tu parles. Oui.
On est en lien. Oui. Et l'idée de séparation, c'est l'idée aussi que c'est moi qui pilote cet organisme. Et si tu regardes, il y a plein de moments où personne ne pilote cet organisme. Même quand tu crois qu'il est, que tu le pilotes, en fait, tu pilotes rien du tout. Et puis, il y a l'idée que c'est à moi que ça arrive. Peut-être ça, c'est peut-être plus facile. Il y a l'idée que c'est à moi que ça arrive. Tu vois, si je te dis je t'aime ou je te déteste, ah, c'est moi qui l'aime. C'est moi qui déteste. Tu vois? On s'attribue la chose. Et ça, sans conteste, ça signe la croyance en amour.
Mais est-ce qu'en même temps, c'est ce besoin de reconnaissance qui, du coup, est, je dirais, quelque chose qui nous conforte en soi?
Mais il y a besoin de reconnaissance parce qu'il y a des pensées crues, parce qu'il y a la croyance en amour. Moi, tu peux me détester, je t'aimerais quand même, ça ne changera rien. J'ai pas besoin que tu me reconnaisses, j'ai pas besoin que tu m'aimes, j'ai pas besoin que les gens viennent me voir, j'ai pas besoin. Pas de besoin, en fait. Bon, les besoins physiologiques demeurent, bien sûr, mais le reste, il n'y a pas besoin. Tout apparaît au sein de ce que je suis, y compris cet apparent, cette apparence. Y compris l'organisme corps mental, y compris les pensées, y compris les croyances, les mouvements de toutes sortes.
Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que je suis amour que j'ai plus besoin d'être aimé, parce que...
Oui, et je n'ai pas besoin de faire l'expérience d'être amour. Je suis amour et ça suffit. Et on peut remplacer amour par plein d'autres mots, paix, joie, accueil, etc. Mais cette réalisation de ce que je suis est secondaire chez moi. C'est pas fait, c'est pas ça qui est tombé en premier. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Hein. J'ai vécu des expériences mystiques où j'étais amour et où tout était amour, etc. Et tout, ça crachait le feu, tu vois. Non pas que ça crache pas le feu maintenant, mais l'expérience est beaucoup moins forte que dans cette expérience mystique. Par contre, l'aspect indubitable de ce que je suis est beaucoup, est carrément est net, quoi. Il y a aucun doute, ça jaillit, tu vois. La première fois que j'ai dit je suis le bonheur même dans un groupe, tu vois, ça a été, tu vois, c'est, j'étais surpris moi-même et en même temps, bah oui, c'est évident, quoi. Mais il n'y avait pas eu la conscientisation de ça.
Ne vous attachez pas à tout ça, à tout ce que l'on peut en dire. On peut... D'abord, ça varie d'une personne à l'autre. Ensuite, c'est un après-coup. C'est quelque chose qui vient après, plus souvent. Vous voyez bien, lorsque Brigitte, tu fais l'expérience que le corps marche tout seul, tu n'es pas en train de te dire « je suis bonheur même ». Et pourtant, si tu regardes à cet instant-là, ceux-là qui regardent le corps marcher n'est absolument pas séparé du bonheur. Ce serait une idée psy. Ceux qui ont fait des expériences comme ça de vision, c'est clair. Et en même temps, c'est calme et tranquille. Pareil pour l'amour. À cet instant précis, on n'est pas, on sait que l'amour et moi, c'est un. Et qu'il n'y a pas aucune séparation avec ça. Et que je sais aussi que je ne suis pas du tout séparé du corps que je perçois en train de marcher. Tu me trompes ?
J'en suis tellement loin, là.
C'est trop loin.
Ah oui. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée que tu es loin. C'est fait.
Peut-être bien, oui.
Ça, c'est la théorie, mais la pratique. Le vécu, on l'a pas.
Ça, c'est une pensée. Il y a plein de moments dans la journée où il n'y a pas l'idée d'un moi, où il y a une tranquillité paisible, tranquille, vraiment tranquille, tu vois. Mais ces moments-là sont vus comme pas importants, tu vois. On passe dessus. C'est comme quand tu regardes un film, entre chaque image, il y a un espace. Il n'est pas vu. On porte le regard sur l'image, mais pas sur ce qu'il y a entre les images. Et là, c'est la même chose. On porte le regard sur ce qui est attirant pour l'organisme, pour ce qui nous happe, tu vois, ce qui, je sais pas comment dire, ce qui nous fascine pour l'image, et pas pour ce qui soutient l'image, ce qui permet à l'image d'apparaître.
Sur l'écran.
Que tu mettrais dans ces moments où en fait il n'y a pas de moi, des moments où on est absorbé dans une tâche, même très ordinaire, du style faire son jardin ou...
Ben pourquoi pas,
ouais. Parce que des fois quand j'étais absorbée dans une tâche, je me dis est-ce que j'aurais dû être moins absorbée dans la tâche, voilà, je me pose la question parce que j'ai tendance à être très absorbée dans mes tâches. Est-ce que je devrais garder une vue panoramique? Voilà. Tu vas me dire c'est une stratégie alors.
Exactement. Non. C'est que je suis va se manifester, après va continuer, la vie va continuer à se dérouler, quoi. Croyez pas que ce soit tellement différent. La Terre continue à tourner même quand on s'est aperçu qu'elle est ronde et pas plate. Ça va continuer. Ce qui change, c'est la focalisation. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on croit qu'on est cet organisme, corps mental, et qu'on est restreint à cela. Ce qui va aussi créer la peur de la mort, par exemple. Si vous essayez d'arrêter d'être, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Et si vous restez avec cela qui ne peut pas ne pas être, c'est juste calme et tranquille. Ça n'a pas l'idée de la mort, ça n'a pas l'idée d'être l'organisme, le corps mental. Ça ne porte pas de jugement, ça n'a pas besoin d'être connu, d'être aimé. C'est pas un amour débordant. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas l'amour. Et si vous restez avec cela qui ne peut pas ne pas être, et que vous êtes, ça ne se sent pas aux commandes. Ça ne dit pas c'est moi qui pilote l'organisme. Ça ne se sent pas responsable, encore moins coupable. Ça n'a pas de manque, pas de besoin, pas de recherche. C'est je suis. Si on doit le définir, être à je suis, pour être à être t, étant, peu importe le mot. Et il n'y manque rien. Et il ne faut pas faire un gros effort. Pour percevoir tout ça, pour en être conscient. C'est là en permanence. Et cet étang, cette étreté, elle est là en permanence. Si on regarde, elle est sûre, c'est sûr qu'elle est tout le temps là. Que j'aille bien ou mal, que je sois malade ou en bonne santé, un homme ou une femme, grand ou petit, etc., peu importe. Que je m'étais joué, que je parle, que je sente l'amour ou la haine, l'étreté est la même. C'est cela dont je parle. C'est ce je suis. C'est la chute de l'idée d'un moi, la dissolution de cette croyance en l'idée d'un moi, nous dépose en je suis. C'est une première étape essentielle. Il y a aussi, c'est qu'on fait souvent de l'éveil tout un foin, toute réalisation de l'absence de moi. On s'imagine que ça va être un truc, mais alors complètement énorme, merveilleux, génial, enfin que vraiment, ça va être une expérience, mais c'est justement pas une expérience. C'est ordinaire. Ça veut dire que c'est quelque chose aussi qui, d'une certaine manière, est connu. C'est simplement que le regard ne se porte pas de ce côté-là, d'une manière générale. Et surtout, il ne se porte pas sur l'inexistence ou l'existence d'un moi, individu séparé. Lorsque apparaissent des moments comme ça, lorsqu'apparaissent des moments où simplement il y a être-té, il n'est pas regardé, il y a un moi ou pas. Et si à ce moment-là, il y a quelqu'un à côté de vous qui dit, mais regarde, alors, il y en a un ou il n'y en a pas? Il dit, ben non, il n'y en a pas, c'est évident. Ah, alors regarde, c'est quoi les conséquences de voir qu'il n'y en a pas? Et c'est à ce moment-là qu'il y a des choses... Attends. Par exemple... Mais il se trouve que lorsque, d'une façon quotidienne, comme ça, le je suis vient à s'imposer, quand on ressent cette être-té, il n'y a pas de question. Donc la question du sens du moi ne se pose pas. Et puis on mélange tout. On dit, ah bah, de temps en temps je suis en paix, puis de temps en temps je suis pris par les choses.
parce qu'il y a une continuité. Il n'y a pas de séparation entre moi pris par les choses et ce que je suis pas pris par les choses. Il y a juste, ça colle, ça se décolle, c'est tout. Ça colle à l'histoire, ça croit à l'histoire ou ça y croit pas. C'est un peu comme lorsque vous allez au cinéma et puis vous rentrez complètement dans le film. Ah, vous vivez avec les acteurs, vous oubliez complètement le monde extérieur. Puis le film s'arrête et... Attends là, zut, c'est quoi la réalité? C'était pas réel, c'était juste un film. J'ai été prise par le film. Je parle d'un film, mais ça peut être n'importe quoi d'autre dans le monde, dans la vie. Dans les relations amoureuses, c'est très fort. On tombe amoureux, ça y est, ah là là, c'est tellement bien, c'est génial, ça y est, on est complètement pris par ça. Puis sans, quand ça commence à tourner au vinaigre, on est moins pris par ça. On est pris par... Donné, il y a des éclairs de lucidité. Si on se dit, en fait, j'ai toujours su que c'était pas le bon. C'est-à-dire que ça a su, mais ça a fait comme si. Tu comprenais ce que je veux dire? Mais ces moments, il y a plein de moments, en fait, où on n'est pas pris. Et où c'est simplement tranquille. Où il n'y a pas l'idée d'un moi aux commandes qui est cru.
J'aime bien là, c'est que si je décroche de la mémoire de je suis Elisabeth avec tous mes conditionnements, etc., mais il y a un potentiel infini.
Ouais, la mémoire. Même le corps est une mémoire. Si vous fermez les yeux et que vous oubliez l'image du corps visuel et que simplement vous êtes avec les sensations, faites-le là. Ben, y a des sensations. Ces sensations, elles sont clairement limitées ou pas? Est-ce qu'elles sont liées les unes aux autres? Je veux dire, est-ce qu'elles se touchent les unes les autres? Ou est-ce qu'elles sont... pas forcément les unes contre les autres. Qu'est-ce qu'il y a entre elles ?
si vous oubliez la mémoire, est-ce qu'il y a l'idée même d'être un corps ? Que l'enveloppe corporelle est clairement définie, si vous oubliez la mémoire, simplement au niveau de la sensation.
Il y a juste perception.
Ben oui.
Et les perceptions ne sont pas localisées.
Moi, je dis la extension.
Il n'y a plus de limite.
Il n'y a pas de limite. Et les sons. Ils apparaissent où ? Au sein de ce non-limite, de ce non-défini. Ils apparaissent. Est-ce que même il y a l'idée d'être un homme ou une femme ? j'aimerais vous intéresser à cela qui constate tout cela, à cela qui est conscient des sensations, des sons, de l'aspect non limité du corps. Est-ce que les sensations vous définissent? Est-ce que les sons vous définissent? Est-ce que les pensées, s'il y en a, vous définissent? Et oubliez tout ce qui peut être constaté, oubliez tout ça, oubliez les sensations, les perceptions, les pensées. Négligez-les, mettez-les de côté, déposez-les, mettez le mot qui vous convient. Ne vous en préoccupez pas. Laissez-les être sans vous en soucier, le moins du monde.
le flot des pensées se ralentit. Dans des exercices comme ça, l'énergie se détend, l'espace s'accroît. Et tout ça s'est vu. Mmh. Au quotidien, il y a comme l'apparition permanente d'une construction psychologique qui garde de l'énergie. Et cette personne psychologique, quand il n'y a pas d'attention, quand il n'y a pas de vigilance, elle prend son importance. Et c'est là qu'intervient l'oubli. Bon. Et voilà. Et est-ce qu'il faut en permanence faire l'effort de la vigilance ou de l'attention pour...
Pour ?
Ouais.
Pas pour.
Ouais.
Pour, c'est stratégie.
Ben oui.
Échec assuré à plus ou moins long terme. Pas. Donc, non. C'est trop d'efforts. Il n'y a pas besoin de ça, Gérard. Bah, oui. C'est trop d'efforts.
Bah, à ce moment-là, il y a oubli.
Mais qui a un problème avec l'oubli ?
Bah, j'ai comme sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini.
Et alors ? Il y a quelque chose de pas fini. Admettons que ce soit vrai. Et alors ?
Il y a encore une attente d'une réalisation quelconque.
Mm-hmm. Et ça crée une tension.
Ça ne crée pas de tension, mais ça crée.
Si, quoi d'autre ?
C'est une tension.
Moi, c'est pas vraiment une tension. Moi, je ne le sens pas comme une tension.
Tu le sens comme quoi ?
Hein ?
Tu le sens comme quoi ?
Comme.
Une détente ?
Non, mais je ne le vis pas comme une tension, sincèrement. Je vis comme l'intention de cheminer sur un questionnement.
Ça crée forcément une tension corporelle.
Une curiosité.
Intention, c'est la tension. Comment ?
Ça crée forcément une tension corporelle. Je parle au niveau du corps.
Qu'est-ce qui crée une tension ?
L'attente, l'intention, l'orientation vers.
Oui, mais à certains moments, je me dis, bon, voilà, j'ai plus de quête, j'ai plus rien à chercher, cela est. Et puis, il arrive que certaines situations, paf, traînent, quoi. Bon, voilà, c'est pas grave, quelque part. Mais je me donne le sentiment que, tiens, il y a eu une contraction là, à ce moment-là, il y a eu une réaction. Donc c'est pas totalement libre.
Mais c'est quoi libre pour toi ?
Libre, c'est de rire de tout. C'est de.
Ça va fatiguer les zygomatiques, hein ?
Voilà, un rire intérieur. Un rire léger. Bon, faut voir.
Libre pour moi, c'est libre que tout puisse apparaître. Je suis pas défini par ce qui apparaît.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des réactions ?
Oui. Oui. C'est pas un problème, c'est une joie. Les réactions sont vécues pleinement dans l'ensemble. C'est vécu, oui. Il n'y a pas le refus de la réaction, il n'y a pas le refus de ce qui apparaît. Et s'il y a le refus de ce qui apparaît, le refus est accueilli. Le refus est vécu. Ah, tiens, ça refuse.
C'est toi qui j'entends bien ça. Et après, il y a l'idée de tiens, ben c'est pas fini.
La facilité.
Ouais, c'est incroyable.
C'est foutu.
Comment ?
Ça, c'est cuit.
Oui, bien sûr. Mais elle est vue aussi, cette idée.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'elle est vraie ? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas fini ?
Voilà. C'est l'idée que j'ai.
C'est l'idée que je me fais de la chose.
Mais, c'est ça.
Mais est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce que tu en es sûr que c'est bien comme ça? Non. Donc, tu peux laisser tomber cette idée, tu peux la lâcher. Et qu'est-ce qui reste?
La vie.
La vie avec des réactions? Ou pas? C'est l'idée que je m'en fais. C'est comme si c'était mal qu'il y ait des réactions qui se produisent.
Un petit peu. Il y a moins de jugement, mais effectivement, quelque part, c'est ça.
Oui, mais... Ben non. C'est normal qu'il y ait des réactions. C'est un organisme, il est vivant, il réagit à ce qui se passe.
Mais quand je parle de réaction, je parle de réaction psychologique.
Oui, c'est pareil. Mmh. Il y a des conditionnements qui demeurent.
Ouais, voilà.
C'est pas parce qu'il y a absence de la croyance en un moi que il n'y a plus aucune pensée qui est crue. Mmh. C'est deux choses différentes.
Ces pensées, elle est basée sur le fait qu'on s'identifie à moi.
Non, la croyance en un moi est une pensée crue. La croyance en je sais pas quoi ou qui est une croyance en je sais pas quoi ou qui. Ce sont d'autres croyances.
Donc on ne se libère pas des croyances alors?
Pas de toutes.
Comment ça, pas de toutes?
Oui, il y en a qui demeurent.
Mais pourquoi il y en a qui demeurent et d'autres qui ne demeurent pas?
Parce que ce qui... parce que les autres n'ont pas été vus pour être de simples croyances. Il y en a qui s'effondrent en même temps que l'idée d'un moi parce qu'on ne sait même pas comment, pourquoi. Ça, c'est comme ça, c'est un constat, si tu veux. Mais tout ne s'effondre pas. Les autres ont besoin d'être vus quand elles réapparaîtront. Ou pas, si elles ne sont pas vues, elles continueront. De vue comme fausse, comme de simples croyances. C'est ce que je disais tout à l'heure à Mimi, c'est-à-dire qu'il y a la croyance en l'idée d'un moi, et puis il y a la croyance, par exemple, je suis responsable de cela. Et c'est, en fait, je suis responsable de cela, dans le discours commun, associe deux croyances. La croyance responsable et la croyance je. Je souffre, associe la croyance je et la croyance souffrance. Je suis triste, associe la croyance je et la croyance tristesse. Enfin, la croyance à la pensée qui rend triste, etc. Je raccourcis un peu. Lorsque l'idée d'un moi s'effondre, il y a plein de choses qui s'effondrent. Tu vois, à ce moment-là, il peut y avoir tristesse, la tristesse peut réapparaître, être blessé peut réapparaître, être en colère peut réapparaître, etc. Mais c'est plus à moi que ça arrive. Puisqu'il y a l'idée d'un moi s'est effondré.
C'est vu pour ce que c'est.
Et c'est beaucoup plus facilement vu pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'une pensée crue qui crée une émotion, qui crée une réaction. Si le regard se porte dessus, si le regard ne se porte pas dessus, ou si le regard se porte dessus et ne le voit pas comme faux, ça continue. Je distingue l'idée d'un moi, cette pensée moi, qui est crue et qui est faussement cru, et puis toutes les autres croyances qui formeront ce que j'appellerais l'ego.
Ok, mais l'ego, il est quand même basé sur pareil, il est d'un moi.
Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu.
Si on pense qu'il n'y a pas de moi, comment on peut avoir des pensées que l'on croit?
Parce que tout ça a été conditionné dans l'enfance, depuis qu'on est petit, tout ça, ça tourne tout seul.
C'est des formes pensées, l'ego.
Ouais, pour dire ça comme ça. C'est ce que tu as construit en 10 ans, 20 ans, 50 ans, va pas s'effondrer d'un coup en une seconde.
Mais est-ce que ça veut pas dire alors que il y a encore une forme d'identification en moi?
Pas au bois, il n'y en a non, pas. Il y a encore croyances en dépensées qui n'ont pas été vues pour ce qu'elles sont, de simples pensées, ouais, qui sont prises pour le réel. C'est important de faire cette distinction. Sinon, l'éveil ne se produit pas parce qu'on attend que tout soit effondré. Et si tout n'est pas effondré, eh ben c'est que c'est pas fait. Ça. Alors ça va durer des siècles. Et ça enlève l'opportunité de voir que tout reste ne sont aussi que des pensées associées.
Donc l'éveil, c'est simplement ne plus s'identifier au moi.
Réaliser qu'il n'y a pas de moi et qu'il n'y en a jamais eu. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Arrêtez de croire au Père Noël. Tout simplement.
C'est aussi clair que l'autre chose.
Ouais. Oui. L'éveil offre l'opportunité de la fin de toute souffrance, pas la fin de toute souffrance. Il y a plein d'autres pensées qui continuent à être crues, tant qu'elles ne sont pas vues. Mais je ne suis pas le premier à le dire. Hein. Nisargadatta l'a dit, Ramana Maharshi disait, il parlait du bateau dont on coupe le moteur et qui continue sur son air. C'est, je veux dire, Jeff Foster, il n'y a pas si longtemps, a dit « Je ne connais pas un éveillé qui n'ait plus jamais souffert ». Monsieur Lancer.
Il y a du bazar dans No Man's Land.
Il y a du bazar dans No Man's Land ? C'est-à-dire ?
Mais encore.
Tu sais, quand il n'y a pas de moi, c'est un No Man's Land.
Ça, je comprends ce que tu dis. S'il n'y a plus de jeu, le je suis triste n'a pas de sens.
C'est une expression langagière. Je me moi demeure en tant que facilité langagière. C'est trop long de dire dans l'organisme corps mental appelé Gérard, il y a de la tristesse qui est éprouvée. Alors on dit je me sens triste. C'est tout. C'est simplement ça. Hein.
Bon, mais alors, moi,
imagine que je me promène dans la rue et puis que je rencontre des gens ou les amis. Ouais, dans l'organisme. Gérard, arrête, tu m'emmerdes. Ils ont raison. Quoi. Tu peux pas parler comme tout le monde.
Et c'est là que moi j'arrive pas à repérer si l'ego, enfin le moi est toujours là ou pas.
Bah, de toute façon, si tu te poses la question, c'est qu'il est toujours là. Parce que moi je me pose pas la question. Moi.
Non, je me la pose aujourd'hui.
Bah, je sais pas, Dominique.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus progressif que ce que tu présentes. Par exemple. Bon, la dernière fois que j'ai eu envie de pleurer, c'est parce que j'avais dit un mot de travers et mon mari a fait un peu la gueule. Donc, ça, c'est une situation que tout le monde peut comprendre. Mais bon, donc ça a pleuré, quoi. Oui, j'ai pleuré. Alors, je peux dire, j'ai pleuré, mais j'ai pas non plus poussé des cris ni tout. Oui. Ça a passé très vite, d'ailleurs.
Alors, ça aussi, c'est un signe. Est-ce que les réactions passent très vite ou est-ce qu'elles durent longtemps ?
Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vu au cours des années en faisant un certain type de travail, c'est que ça se raccourcissait. De 6 jours, c'est passé à 3. De 3, c'est passé à 2. De 2, c'est passé à 1. C'est pas tout
maintenant,
pour rien.
C'est combien ?
Oh, c'est quelques minutes.
C'est encore très long.
Ça n'est même pas apparaître.
Dans l'organisme corps mental appelé Gérard, c'est généralement quelques secondes, voire moins.
Oui, tu vois ce que tu veux dire. Tu peux éclater de rire juste après.
Ah oui,
oui,
oui. Quand c'est pas en même temps.
Oui,
quand c'est pas carrément en même temps, ça se met en colère et ça rigole en même temps.
Oui.
C'est assez marrant.
Ouais.
Ça peut pas croire longtemps, d'une façon générale. Ça arrive que ça colle. Hein. Ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé 3-4 fois. Envers moi, mais ça arrive, mais le reste du temps c'est très bien. Mais de toute façon, c'est pas un signe pour moi, ça. Je m'en fiche de ça. C'est la liberté qui est ressentie. Ça fait rire, oui. C'est plus des mouvements, tu vois. Que
c'est détendu tout le temps, non ? Ça se détend plus.
Il y a une détente de fond, même sur en cas de tension, parce qu'il y a une activité ou que je sais pas quoi.
Et un autre regard, c'est celui de la recherche. Est-ce qu'il y a encore une recherche ou est-ce qu'il n'y a plus de recherche? Parce qu'avec la perte de l'idée d'un moi, la recherche, celle qu'on a connue jusqu'avant, elle s'effondre, quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que une fois que c'est fait, avec le temps, on oublie comment vous étiez avant. Oui. Tu vois? Donc c'est difficile pour moi de serrer ça. Mais toi, ce qui me revient, c'est cette idée de recherche. Avant, il y avait une recherche de fond qui, chez moi, était drôlement calmée déjà. Hein. C'était, tu pouvais dire, cherche rien toi-même, tellement c'était calmé. Et en fait, ça cherchait encore. Et je me suis aperçu que ça cherchait encore quand l'idée de moi s'est effondrée. Je me suis dit, si, ça cherchait encore. C'est comme une tension de fond, tu vois. C'est pas encore sage, tu vois. C'est pas ça. Et en fait, on sait que c'est pas ça la vie. On sait que c'est autrement, ça devrait être autrement. Tu vois. Et pourtant, ça fait 60 ans qu'on vit comme ça et on sait que ça devrait être autrement. Tu vois, on le sait, on connaît, c'est connu tout ça. C'est pas. Il y en a qui réalisent ça, puis ils me disent après, tu sais, Gérard, j'ai toujours su. Évidemment, c'est ce que je suis. Comment je pourrais ne pas l'avoir su avant? Je le suis. Je l'ai toujours su. Puis c'est d'un banal et d'un ordinaire, ça se tire une balle dans la tête. Moi, c'est la phrase qui m'est revenue au moment où ça s'est produit, pendant des semaines. C'est, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? C'est tellement évident, c'est incroyable. C'est incompréhensible. Mais je ne sais pas répondre à ta question, Dominique. Est-ce qu'il y a une recherche ou pas? Est-ce que...
J'ai eu l'impression à un moment que ça s'était arrêté, la recherche. Mm-hmm. Et c'est reparti dans la mesure où je suis stimulée par mon environnement immédiat, celui de mon mari qui... très intéressé par certains enseignements que je ne comprends pas. Donc,
voilà. Divorce. En plus, il te fait pleurer.
Bon, elle se fait pleurer quand elle est
venue. Arrête de retenir ce que je dis, de la réutiliser contre moi.
On a vu Père Noël. Enfin, c'était la même Noël.
Pardon. C'est juste.
Ok, eh ben, tu comprends pas, c'est pas pour toi, et alors?
Oui, c'est ça, oui. C'est ce que j'en ai conclu. Presque.
Et alors, c'est arrêté quand et comment? Qu'est-ce qui se passait là?
C'est quand j'ai compris que ce que j'étais, c'était pas le corps ni mon histoire. Mm-hmm. Et que j'ai compris que de savoir ça, ça faisait que il n'y avait plus de problème.
Mmh. Ok. Mmh. Et comment ça se fait que ça s'est raccroché?
Mais ça ne s'est pas raccroché. C'est, après, c'est tout un processus. Mmh.
Et dans tu la dis vie, la recherche a repris.
C'est-à-dire que... Alors après, si tu m'iras, c'est parce qu'on se désignait sur l'éveil. C'est de voir l'expression chez d'autres gens de qu'ils ont réalisé quelque chose. Tu te dis, ah bah tiens, moi, ça, c'est pas comme moi, ça. Bon.
Ah oui, c'est vrai. C'est à chaque fois différent.
Ouais. Et tiens, là, je comprends pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc c'est pas arrivé, enfin voilà.
Tu comprends pas ce que je dis?
Non, je te parle pas de toi.
Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Ah oui. Si je suis venue, c'est parce que sans ça, je suis pas ma joie à ce point-là. Ouais.
Donc, si tu comprends ce que je dis, déjà, c'est un bon signe. Est-ce que ça te paraît évident, ce que je dis?
Je pense que... comment dire? C'est oui et non, c'est-à-dire... oui, c'est limpide et je suis pas sûre d'avoir tout réalisé.
Par exemple?
Ça alors. Je crois qu'il faut fasse un effort de mémoire, ce que tu racontes.
Je parle trop.
Si tu dis si tu parles en termes d'entité séparée, je ne me reconnais pas, par exemple. Mm-hmm.
Mais tu n'as jamais vécu ça ?
Non.
Tu t'es jamais senti séparée ?
Ah, si. Très fort, même.
Et ça t'arrive encore ?
Non. Mon vécu quand j'étais adolescente, c'était que j'étais dans un aquarium et que j'étais séparée du monde et des autres par une sorte de vitre. Mmh. Ça a disparu, ce genre de vécu, par bonheur.
Et maintenant, quel est ton rapport aux autres, au monde, à toi-même ?
Ah ben, c'est beaucoup plus facile. Et puis en même temps, comme on disait, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a quelque chose qui perdure, c'est-à-dire il y a une certaine personnalité qui, par exemple, a des traits de timidité assez forts qui font que c'est pas toujours facile de parler aux gens ou d'aller dans certains lieux, mais bon, c'est comme ça. C'est...
T'en fais pas une histoire ?
Ah non, ça, certainement. Ouais.
Est-ce que ça t'empêche d'être heureuse ? D'être le bonheur que tu es ?
Voilà, d'ailleurs, j'utiliserais même pas heureuse bonheur que je suis, oui, je veux bien, oui. Oui, non, ça m'empêche pas.
Dans ce que tu dis, ce qui m'a frappé, c'est la phrase l'idée que je me fais de l'éveil, tu vois. Mm-hmm. C'est pas comme les autres. C'est à chaque fois différent. Mm-hmm. C'est à chaque fois différent. Ce qui me frappe aussi, si tu veux, c'est que c'est l'approche que l'on en a. Moi, je ne sais pas par où t'es passé, comment les choses sont faites pour toi, mais je sais que dans mon cas, déjà, étant psy, j'ai pas mal regardé pas mal de choses déjà avant, et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai dû m'arrêter, me poser et juste être avec ce qui était là, être avec. Et donc ça a mis en place, si tu veux, une espèce d'automatisme de regard. Et qui peut-être, et qui le regard faisant que les choses ne durent pas, peut-être que ça fait aussi que les choses s'effondrent aussi vite chez moi et pas forcément chez toi, je ne sais pas.
Oui, mais c'est une stratégie ?
Non.
Non ?
C'est une obligation. Au départ, c'était une obligation. J'avais pas d'autre solution que juste me poser. J'ai essayé toutes les stratégies, comme elles ne fonctionnaient pas, je me suis juste posé et j'ai attendu que ça passe. Mm-hmm. C'était juste ça. Et alors là, hélas, et être simplement se être avec, c'est mis en place. C'est mis en place.
Sans se poser à chaque fois.
Attends. Non, j'en étais bien incapable. Ah. Il y avait juste ta gueule, va t'asseoir et attends que ça passe. Mm-hmm. C'était vraiment cette radicalité-là. Parce que c'était juste impossible autrement. Et j'avais pas les mots à être avec. J'avais pas les mots. Personne m'avait parlé de ça à cette époque-là, donc c'était pas. Ça pouvait pas être en stratégie. C'était juste que c'était pas possible de faire autre chose. Et que tous ceux qui me disaient, mais Gérard fait ci, mais Gérard fait ça, mais j'ai essayé. C'était pire que tout ça. Donc stop, à la fin, j'en voulais paître tous ceux qui me disaient, Gérard fait ci, fait ça. C'était fiche-moi la paix. Je pense que c'est des trucs qui peuvent jouer beaucoup, ça. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu dirais de la souffrance ?
Ça va y sortir, laquelle ?
Bah oui. Quand par exemple ça se passe pas bien avec ton mari et que tu ressens de la tristesse, est-ce que c'est de la tristesse seule ou est-ce que c'est de la souffrance ou est-ce que c'est souffrant ?
Oh, c'est de la tristesse. C'est juste.
Voilà, c'est ça la différence. Ouais. Pour moi, c'est ça la différence. C'est qu'on ne fait pas une histoire de ce qui apparaît. Ouais. Ce qui apparaît, apparaît. Ouais.
Et la tristesse peut très bien être là. C'est d'où la tristesse?
Ça peut.
Est-ce que tout peut apparaître?
Ben, je sais pas, tout n'est pas encore apparu.
Oui, mais enfin, dans ce que tu as vu apparaître.
Voilà, oui. Ça. Des fois, on se dit, il y a des choses que j'aimerais pas voir apparaître, mais.
Mais
si, quand même. Ben, je sais pas, si ça apparaît, ça apparaîtra.
Est-ce qu'il manque quelque chose à tout ça?
Eh ben oui.
Ah,
c'est ça.
Voilà, ça y est, on a une clé enfin. Qu'est-ce qui manque?
Je sais pas. Quelque chose de pétillant, une étincelle là qui manque. Il y a quelque chose là qui manque. Je sais pas. Je sais pas. C'est le oui sortait tout seul, mais je sais pas ce qui manque. Ben si je le savais, ça manquerait pas.
Ben je sais pas. Tu m'as l'air assez pétillante là tout de suite.
Ouais, je sais pas.
Qu'est-ce qui manque?
Je sais pas. Peut-être un sentiment de moi qui reste. C'est ça, peut-être le.
Il y a un sentiment de moi qui reste d'après ce que tu dis, oui.
Apparemment.
Mais apparemment, oui. Ouais. Ça, et au moins apparemment, oui. Il est où? C'est marrant parce que depuis qu'on en parle, tu rigoles comme ça, c'est dingue!
Écoute, bah je cherche.
Mais cherche, vas-y maintenant tout de suite, attends pas demain, c'est pas la peine. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque quelque chose? Il y a l'idée d'un manque.
Il y a l'idée d'un manque.
Ça peut pas être aussi simple. C'est parfois c'est subtil, parfois il manque juste un petit déclic de rien. C'est marrant ces trucs-là. Juste rester sans savoir, on sait pas quoi, on sait pas. Hein. Ah, ça ne te dérange pas de trop, prends pas trop la place. Bourreleur, pas de pitié.
Moi, j'entends qu'il y a deux choses. Il y a la pensée du moi, c'est-à-dire qu'il y a sur moi, et il y a les autres pensées. Donc, travailler sur le fait que les pensées sont fausses ne suffit pas, en fait. Parce que c'est d'abord la pensée du moi qui est la plus importante.
Oui.
Et comment on fait pour que celle-là, on l'abandonne vraiment?
Tu la regardes de près. C'est que toujours la réponse sera le regard. Quand je dis le regard, ça peut être l'écoute, ça peut être avec, ça peut être constater, ça peut être accueil, acceptation, peu importe le mot. Hein. Le alors, regard.
Alors regarder quoi? Parce que la sensation de soi, c'est pas si évident. Enfin,
ah bon?
Ce que je veux dire, c'est que ça prend plein de formes.
Oui.
Donc il suffit de prendre une des formes.
Ou toutes les unes après les autres, peu importe, mais est-ce qu'il y en a une seule qui prouve l'existence d'un moi? Trouve-moi une sensation qui prouve l'existence d'un moi.
Mais déjà, il n'y a pas de sensation qui prouve l'existence d'un moi, comme il n'y a pas de sensation qui prouve la non-existence du moi.
Exact.
Donc on fait un choix?
Non. On reste avec. Je ne sais pas. Et ça crée quoi le je ne sais pas? On reste avec. Ça vit comment dans le corps, je ne sais pas.
C'est comme si ça agitait.
La sensation corporelle pure.
pensées que...
Lesquelles?
Il n'y a pas de contrôle. Si on ne sait pas qu'est-ce que...
Exact, il n'y a pas de contrôle. S'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de contrôle. Oui. Quelle libération. Il y en a, ils ont peur de ça, je ne sais plus, jamais compris pourquoi. Enfin, si, dans le temps, dans une autre vie.
Ça revient, le contrôle.
Eh oui, il n'y a pas de contrôle. Les conséquences de l'absence de moi font tellement peur qu'on préfère continuer à croire en un moi. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu de moi. Donc, il n'y a pas de conséquences. C'est bête d'avoir peur de rien.
C'est souvent comme ça avec les émotions. Hein.
Eh oui.
La peur, c'est vraiment facile.
La peur qui est de perdre le contrôle. Mais j'ai jamais eu le contrôle. Comment je peux avoir peur de ne pas avoir le contrôle? J'ai jamais eu. Ça n'a juste pas de sens.
C'est peut-être la peur première, ça. Hein, le contrôle.
Non. Oui, reste avec ça. Mais si l'idée d'un moi s'effondre, j'aurais plus le contrôle. J'ai rien.
Ben là, tout de suite, ça fait pas grand-chose. Je me sens surtout en échec.
Par rapport à quoi?
Parce que j'arrive pas à lâcher.
Mais tu peux pas lâcher. N'essaye même pas, c'est pas la peine.
Ben, je veux dire, j'arrive pas à ne pas croire.
À quoi?
Au moi.
Ben, bien sûr, tu peux pas ne pas y croire. N'essaye même pas d'essayer d'arrêter d'y croire, c'est pas la peine. C'est du temps perdu. Je ne dis pas arrête de croire au moi. Je ne dis pas lâche, prise. Je dis regarde. C'est le regard qui va faire le travail, tu vois. Lorsqu'il est vu que quelque chose est faux, ça ne tient plus la route. Tout simplement. Donc ça s'effondre, on n'y croit plus. C'est comme si tu disais à un enfant, arrête de croire au Père Noël. Mais moi je vois bien qu'il y a des cadeaux sous le sapin. Mais c'est moi qui les y mets. Mais c'est pas vrai, c'est le Père Noël. T'as aucune preuve, il va falloir qu'il te voie mettre tes cadeaux sous le sapin. Et alors là, après, c'est fini. Mais vouloir arrêter de croire au Père Noël n'a pas de sens. C'est pareil.
S'il y a ce regard par rapport au moi, il y a quelque chose qui peut attraper moi, qui est une espèce de contraction. Soit il y a un état de conscience sans concentration, soit il y a quelque chose qui se concentre et qui dit moi, ou qui est appelé moi, ou je, mais qui ne reste pas.
Non, je peux très bien me concentrer sur une tâche sans penser une seule seconde qu'il y a un moi qui fait ça.
Oui, mais oui, bien sûr. Mais le moi est une concentration peut-être plus habituelle.
Le moi est
une... Mais comme toute concentration.
Il n'y a pas de moi.
Ce qui est appelé, c'est cette concentration qui est appelée moi. Ou je.
Pourquoi tu me dis tout ça maintenant?
Parce que tu te demandais qu'est-ce que c'était que le moi.
Moi
le je.
Donc, moi, je ne me demande pas.
Donc, je me suis posé la question aussi.
Ok. Mais et la réponse, elle vient d'où?
C'est une observation.
Donc, dans ton observation, il y a un moi, c'est une contraction, une concentration de la conscience
en rapport. Contraction ou concentration? C'est quelque chose qui fait, je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui étale, et puis quelque chose qui... Je ne sais pas, je l'écrirais comme ça, mais... Et c'est ça qui est un peu les jeux.
C'est trop mental pour moi tout ça.
Ouais, c'est la conscience, c'est magnifique. Ben, je ne sais pas comment décrire. Expliquer ce qui est pas explicable. Non ? Parce que sa tête, elle détruit des fois.
Je suis en train de me dire, mais c'est quoi le problème de la pensée, moi, finalement ? Je pense. Triture, on mélange avec. Là, je. C'est quoi le problème ?
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème en fait.
Je sais plus.
C'est qu'on en souffre.
Oui, le problème c'est la souffrance.
C'est un gros problème.
C'est pas de problème. Le problème, il n'y en a pas. Mais c'est pas un problème la souffrance.
C'est bien.
J'ai pas l'impression d'avoir un
truc. Oui, tu parlais tout à l'heure de mon...
De mal-être, simplement.
C'est super.
Mais de toute façon, c'est vrai que quand le voile est déchiré, la souffrance n'est plus vue comme un problème. Le fait qu'il y ait des croyances en un moi, alors moi, n'est plus vu comme un problème. Pour ce qui est, c'est pas un problème. Même pour le je suis, c'est pas un problème. C'est ce qui arrive. C'est une danse, c'est un jeu, c'est un mouvement. C'est... Il n'y a pas besoin d'y mettre de l'acharnement.
Ouais. Plus on se concentre dessus, plus ça, plus ça se cristallise. Vous le lâchez, puis...
Plus on se concentre, plus moins on rigole.
Je sais pas, c'est impressionnant.
Ouais.
Donc finalement, il n'y a aucun sens à l'existence.
Évidemment. Ouf. D'un point de vue absolu, l'existence n'a aucun sens. Et t'as pas besoin d'en avoir un.
C'est ça, la croyance, que c'est bien le sens. Hein.
Parce que, pareil, comme il y a de la souffrance, on veut l'expliquer, on veut comprendre, on veut essayer de solutionner la chose, donc on fait des relations de cause à effet, ça tourne. Mais évidemment, est-ce que le soleil se pose la question de la raison pour laquelle il brille ? Est-ce qu'il a l'intention de faire pousser les plantes sur la terre ? Est-ce que le chat se demande le sens que ça a de dormir sur le coussin devant toi ?
Mais eux, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes.
Ah bon ? Un chat, ça n'a pas conscience de soi-même ?
Si, il est conscient.
Est-ce qu'un enfant a besoin de donner du sens à son jeu quand il construit un château de sable et qu'il l'écrase en partie de la plage ? Il a le plaisir de le construire, il a le plaisir de le détruire. C'est le seul sens que ça a, le jeu. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas besoin d'en avoir. Est-ce qu'un enfant se pose la question de savoir ce qu'il va devenir dans la vie, ce qu'il va faire plus tard ? Il faut déjà lui inculquer tout ça, tu vois ?
S'il n'est pas conditionné par les parents.
Voilà. Ouais.
C'est conditionné.
Par les
petits. C'est un intermittent du spectacle.
Voilà. Non, c'est pas un intermittent. Il est en permanence. Embauché à plein temps.
C'est la vie des amours, un enfant, tu crois pas ?
Oh, pas tout de suite, ça vient. Ça ne paraît pas à la naissance.
Oui. Le petit qui joue au château de sable, à 2-3 ans, je ne crois pas qu'il a été d'un ange.
Je ne suis pas certain. Il y a, peut-être, oui. Je ne sais pas quand ça apparaît. Le stade de l'impression que j'ai quand je regarde les tout petits, c'est que ce qui fait qu'on se cristallise autour de l'organisme, c'est d'abord les sensations. Les sensations qui ramènent le corps, tu vois. Et puis après, il y a le stade du miroir. Ah, ça, c'est mon corps. Tu vois, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se cristallise. Mais je ne sais pas, c'est des impressions comme ça quand je regarde les petits. Hein. Je ne les mettrai pas ma main à couper. Et effectivement, ça, c'est avant 3 ans. Puis après, ça se. Ça se densifie, quoi. Ça se croit de plus en plus.
C'est vrai que quand les petits, ils n'ont pas le corps. Et, ça... et moi, j'étais toute fière quand ma fille a compris que c'était son corps.
Ah oui. C'est le début de la souffrance. Mon enfant est comme les autres, chouette. Ça y est, elle croit en un moi. Elle en prend pour 50 piges. Oh non, maintenant ça va plus vite. De fait, ça passe par là. Dans notre culture, dans le monde actuel, ça passe par là. Je ne suis pas certain que ce soit obligé de passer par là.
Si c'est reproduit directement à l'âge de l'esprit, est-ce que ce serait supportable pour un enfant, pour un mental d'enfant ?
Oui.
Oui ?
Je ne crois pas qu'il y ait besoin. Je ne suis pas du tout certain qu'il y ait besoin de passer par l'idée crue, l'idée d'un moi cru. Que l'enfant se reconnaisse le corps, tu vois ? Qui permettent aussi de se gérer dans le monde, c'est plutôt positif. Et je suis pas certain non plus que c'est à ce moment-là que l'idée d'un moi s'enracine, tu vois. Je crois, toi, après, ce qui va venir, c'est mais regarde ce que tu as fait, il faut pas faire ça, t'as pas le droit. Toi, et l'enfant, ça verrait plus. Toi, quand tu lui dis, mais ça se fait pas, ça, l'enfant, il va te répondre, ben si, puisque moi je le fais. Là, il n'y a pas l'idée de il faut pas d'un moi très solide. Il y a l'idée d'un moi, mais pas solide comme ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est, ça se densifie, ça se cristallise comme idée d'un moi cru, mais c'est conditionné. Est-ce qu'il y a besoin de passer par là? Je ne suis pas du tout certain.
En fait, je pense à des gens qui sont psychotiques aussi, qui sont névrosés et qui décompensent s'ils ont accès à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que ça se soit construit avant pour le déconstruire après?
Je ne suis pas certain du tout de ça.
Parce que pourquoi
je ne crois pas qu'il y ait des compensations.
Il y a des gens qui ne le supportent pas quand même.
Il y a peut-être bien des évêques qui sont psychiatres.
Ouais, mais ils sont tranquilles là-bas.
Ah ouais.
Ah ouais. C'est tranquille en psychiatrie. Je sais pas. Il y a des expériences d'éveil qui se finissent en psychiatrie parce qu'elles sont trop hors normes. L'éveil franc qui finit en psychiatrie, je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant, mais je pense que c'est possible. Mais surtout, je ne sais pas, en fait, j'en sais rien.
C'est pas dans l'histoire de Anandamayi, on a l'impression qu'elle n'est jamais passée, elle, par l'identification.
Je ne connais pas.
Non, voilà, mais ça c'est un exemple, si ça t'intéresse. Tu pourrais essayer de voir. Elle pleurait pas étant bébé. Enfin, elle était effectivement hors norme, mais dans son vécu, elle décrit que...
Elle n'était pas comprise, d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est ça aussi, c'est que ceux qui réalisent l'absence de moi, surtout enfants, sont tellement hors norme qu'ils s'adaptent. Tu vois. Ils font comme si. Il y en a, ils font comme s'il y avait un moi, parce que sinon c'est trop compliqué la vie.
C'est Michael, je crois, Michael Zipper, qui avait connu un éveil il y a 5 ans, et qui dit c'est comme si je l'avais mis dans une armoire.
Bien sûr.
Pour pouvoir vivre comme les autres enfants. Puis il a retrouvé avoir un temps, quelque chose comme ça.
Puis il y en a, l'éveil s'est produit, ils n'étiquettent pas ça éveil, ils ne savent pas ce que c'est.
en entendu parler. Ils savent juste que c'est libre. C'est comment alors, tes paroles contrôle?
Ça va alors.
Ah, tu vois, on peut s'y accoutumer. Mais regarde dans ta vie. Regarde là, tout cet échange. Est-ce que tu avais le contrôle sur ce que tu disais?
Non.
La manière dont tu t'es installé, tu l'as contrôlé?
Non.
Est-ce que c'est un problème?
Non.
Au contraire. Lâcher le contrôle, c'est plutôt une solution. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur de lâcher quelque chose que je n'ai jamais eu.
En fait, je parle de la souffrance.
Oui. Mais ne mélange pas la peur et la souffrance. La peur est toujours une pensée de futur. Déjà.
Ah oui, c'est ça, c'est une pensée de futur.
Une pensée de futur. Et puis, il y a une pensée, ah, mais si je ne fais pas attention, dans le futur, je vais souffrir. Mais c'est juste une pensée. Est-ce que si tu ne fais pas attention, tu peux mettre ta main coupée que tu vas souffrir? Est-ce que si tu ne fais pas attention, tu peux te mettre ta main coupée que tu souffriras plus?
Non, j'ai plutôt l'idée, si je n'arrive pas à me désidentifier de mon moi, je vais continuer de souffrir.
Ça, c'est juste une pensée. En réalité, t'en sais rien.
Bah, je le sais par rapport à mon expérience passée.
Non, ce que je veux souligner, c'est que quand tu dis « si je n'arrive pas à me désidentifier de mon moi », je vais arrêter de souffrir ou n'importe quoi d'autre, ça s'appuie sur « je ». Si je, moi, n'arrive pas à me désidentifier, à me, moi, me désidentifier de moi,
qui n'existe pas,
qui n'a jamais existé, je vais souffrir. Ça, c'est sûr. Mais il est où ce moi qui se répète trois fois dans la même phrase et qui voudrait se faire disparaître lui-même pour arrêter de souffrir? Et qui a très peur de disparaître parce qu'on va perdre le contrôle qu'on n'a jamais eu.
C'est le dîner grand magicien.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand on s'écoute, on se dit, mais punaise, mais ça ne veut rien dire. Tu comprends? Si juste on reprend ce qu'on dit à propos de tout ça, ça peut que faire rire. On y croit dur comme fer, mais quand on l'analyse, ça n'a pas de sens. Ça fait quel effet?
Ça fait quel effet? Je me dis, je vois bien comme c'est absurde, et pourtant, je sens que ça reste encore ancré.
Quoi?
Et bien, cette peur.
De?
Cette peur de que la souffrance leur revienne.
Ben oui. Donc il y a une pensée de futur, il y a une pensée de souffrance dans le futur. Et ça vit comment dans le corps?
Comme une résistance.
La sensation corporelle.
Oui, mais c'est pas évident.
Eh oui, c'est pas évident.
C'est pas évident parce que c'est pas comme juste le cœur qui s'accélère ou.
Eh oui, oui.
C'est pas.
Pourquoi tu dis qu'être sa peur alors? S'il n'y a même pas les sensations de peur.
c'est un peu dans le cœur quand même. C'est un peu dans le cœur. C'est là, quoi. Je sens que c'est là. Ça remue, quoi.
Ça remue. En tout cas, rien de dramatique. Tu arrives à se dire mal déjà à leur père.
Rien de dramatique.
Donc tu peux franchement rester avec. Donc tu peux rester avec.
Attends que c'est pareil, il n'y a pas de problème.
Mais reste juste avec la sensation dans le cœur maintenant. Donc j'ai peur de souffrir dans le futur, mais si je regarde ce qui se passe en réalité dans le corps, je suis bien. Donc il peut y avoir la peur et être bien simultanément. Ou la peur s'est effondrée d'elle-même.
Là, quand je regarde, elle s'effondre.
Quand je reste avec la sensation physique liée à la peur s'effondre. Sous-entendu, elle n'avait pas de consistance. Ce n'était pas la peine d'avoir peur de la peur. Les peurs n'ont jamais de consistance. Bon, sauf si tu es en face d'un lion qui veut te manger, peut-être là. Ça. Mais, de toute façon, le temps que tu regardes, ce n'est pas la peine, tu seras déjà mangé.
Non, parce que c'est encore... La peur de la mort,
la peur de la... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réactions instinctives. La peur instinctive liée à l'instinct de survie, ça va demeurer.
On parle pas de ça. Je l'identifie pas, c'est
pas grave. Je crois que l'organisme est identifié à ça. Ça fait un avec l'organisme, l'instinct de survie. Et je crois que ça risque encore d'apparaître jusqu'à la fin de tes jours, ce qui est normal.
Oui.
Mais je ne parle pas de ça. Ça, oui. C'est même pas franchement de la peur, c'est une réaction.
C'est la pensée qui vient derrière.
Voilà, c'est l'histoire.
Mais quand on est dans une situation où vraiment c'est ultime, immédiat, moi ça m'est arrivé. Hein.
Oui.
Je ne me suis pas rendu compte, je suis rentrée pour payer le plein d'essence et il y avait juste un braquage. Et je me suis retrouvée à deux pas d'une arme.
Oui.
Ben, je me suis rendu compte que je pouvais juste rien faire et que s'il tirait, ça faisait un carton et que c'était fini.
Bah oui.
Et donc, j'ai rien fait.
Bah oui. Ça peut être tout à fait à ce moment-là, des moments comme ça, il peut tomber un grand, grand terme. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Mais il y a après, c'est un peu secoué quand même.
Bon, après, forcément, il y a quand même un stress. Hein. Elle est surrénale, elle sécrète quand même de l'adrénaline. Hein.
Et j'avais mal où il visait, en fait.
Ouais.
Juste ce que le corps a fait, c'est comme ça, puis
pour voilà.
Parler, puis...
Eh oui, le corps, il connaît tout ça. Bah oui.
Mais là, il n'y avait même pas d'instinct sur... Enfin, si,
à l'intérieur,
ça a été très vite, et ça a dit quoi faire. Ça, je sentais que ça scannait très vite, quoi faire, quoi faire, quoi faire, rien.
Ouais.
Et surtout rien.
Parce et tout que ça là, se passe en 1 microseconde, zoom, tac, rien.
Là, tu dis quelque chose, tu bouges un peu, ou je sais pas quoi, et là, c'est.
Bang.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Et ça laisse pas de traumatisme.
Tu vois, là, ça, ouais. Ça fait
quelque chose. Évidemment, ça se réveille.
C'est ça, c'est sans doute ce qu'on appelle cet instinct.
C'est la mémoire.
Qui vous dit, wow.
C'est la mémoire.
On a eu chaud.
Non, puis attention, c'est pas parce que tu bouges pas que les surrénales sécrètent pas d'adrénaline. Hein.
Oui.
La réaction, elle est quand même là. Hein.
Alerte rouge.
Ben oui.
Mais comment on peut ne plus avoir peur de la mort?
Comment on peut continuer à être identifié à l'organisme? Déjà, moi, la mort, ça ne m'a jamais franchement fait peur. Au contraire, j'ai toujours eu un sourire face à la mort. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Mais, je crois que chez la plupart des gens, c'est l'identification à l'organisme.
Par par exemple, quand on a des enfants, enfin, moi, je, voilà, ça me dit, si jamais il m'arrive quelque chose, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Bah, t'en sais rien.
Bah, si, il me dit qu'il va s'occuper d'eux.
Que ?
Qu'il va s'occuper d'eux, enfin, je veux dire, pour moi, c'est
forcément, allons.
Forcément une souffrance.
Je sais que l'espèce humaine est très pervertie, mais c'est rare qu'on laisse les enfants mourir de faim dans la rue.
C'est sûr.
Donc, à mon avis, ils vont survivre. Ça
non, mais
va
c'est
bien
l'idée
se
de leur souffrance.
C'est l'idée que tu t'en fais. Ouais. Ça se trouve, ils disent ouais, chouette, on est pas. Le maman dans les pattes. Le truc, c'est les idées qu'on se fait, tout ça. Évidemment, il y a un attachement, il y a l'idée que y a, c'était tellement mieux quand, et puis qu'est-ce que je vais devenir, comme tu dis, et puis. C'est vrai qu'il y a une perte, que les enfants vont devoir passer par cette perte, que, comme pour un divorce. Hein. C'est pas la même chose, mais il y a des choses comme ça qui se passent. Évidemment, puis il y a des cicatrices qui sont jamais guéries. Bah oui. Jusqu'au jour où on réalise que tout ça, c'est qu'une histoire et qu'il ne s'est jamais rien passé, que j'ai jamais été séparé de maman. Parce que je suis maman. Il n'y a pas, y a pas de distance, il n'y a pas de différence entre moi et maman.
Mais comme ils ne le savent pas.
Eh bien, peut-être c'est ce qui va les mettre sur la voie de le voir. Mmh. On ne sait pas.
En tout cas, moi, ça me fait peur l'idée de me désidentifier au moi en me disant je ne sais pas comment je vais être du coup avec mes enfants. Enfin,
ah, mais t'inquiète pas, tu vas rester une maman. Probablement plus souriante, plus tranquille. Peut-être même que tu les cadreras un peu plus. Moins maman, plus papa. Parce que moins d'identification à un rôle. Ou pas. Mais j'ai jamais vu une maman ne pas s'occuper de son bébé ou de son enfant quand il y avait besoin. Ça n'existe pas. Enfin, si, c'est une perversion de la nature humaine. C'est-à-dire, c'est lié à des pensées crues pour moi. C'est lié à ou une souffrance, ou à toi, des trucs. Mmh. Mais d'une façon naturelle. Mmh. Mais enfin, est-ce que les animaux ne prennent pas soin de leurs petits, quoi ? Ils prennent même soin des petits des autres races, comme on disait ce matin.
Mais comment on peut parler de perversion ou pas ? Ça veut dire que.
Y a bah, un c'est un mot. Hein.
Ok, je sais, mais ça implique quand même un jugement sur ce qui doit être correct ou pas correct.
Non, non, non. Ça veut juste dire, c'est un raccourci. Ce que je veux dire en mot perversion, c'est que c'est lié à des pensées crues, à un mécanisme conditionné. Qui n'est pas naturel, qui n'est pas naturel, qui est peut-être devenu normal dans une civilisation, mais qui n'est pas naturel.
D'accord.
J'emploie le mot perversion dans le sens strictement médical du terme, qui n'a pas de connotation péjorative, qui n'a pas de jugement porté dessus. Faire une pause.